France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et notons d'abord ce matin que les tensions sont toujours vives au Venezuela autour de l'aide humanitaire bloquée par les militaires restés fidèles au président Nicolas Maduro. Maduro qui a d'ailleurs fermé hier soir la frontière avec le Brésil et il menace d'en faire autant avec la Colombie. La frontière colombienne où se rend justement l'opposant Juan Guaido en ce moment même, il est accompagné de 18 députés de l'opposition. Le djihadiste français Fabien Klein a été tué en Syrie, là où les derniers combattants du califat sont acculés dans une poche de résistance à l'est du pays. Ce Toulousain âgé de 41 ans a été la cible d'une frappe de la coalition internationale. C'est lui qui avait notamment enregistré la revendication du groupe État islamique après les attentats du 13 novembre 2015. Son frère Jean-Michel Klein, autre figure française du djihad, a lui été grièvement blessé lors de ces frappes de la coalition. À la une ce matin également ce coup de massue pour les salariés d'Ascoval. Altifor renonce à reprendre l'acierie de Saint-Saulve dans le Nord, faute d'avoir obtenu des financements nécessaires. Le plan de reprise a été validé en décembre dernier, mais le groupe franco-belge devait apporter 35 millions d'euros. Ce n'est donc aujourd'hui plus possible. Les 281 salariés qui se croyaient sauvés crient ce matin à la trahison. Bercy cherche déjà un autre repreneur. La manif pour tous va porter plainte pour diffamation contre Marlène Schiappa devant la Cour de justice de la République. Elle l'annonce, une réaction à un entretien à Valeurs Actuelles dans laquelle Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, avait évoqué, sans les mettre sur le même plan, une convergence idéologique entre le collectif La Manif pour tous et les terroristes islamistes. Et puis, pour le deuxième vendredi de suite, les collégiens, lycéens et étudiants français sont appelés à manifester pour le climat, contre le réchauffement climatique. Ce mouvement de grève a été lancé il y a un an par la jeune Suédoise Greta Thunberg, une icône du climat, qui sera justement aujourd'hui à Paris pour défiler dans le cortège.
France Culture et le Théâtre de la Ville vous invitent à passer une après-midi en compagnie d'Abd al-Malik.
Je vis comme je peux. Dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites.
Lecture par des comédiens, de textes choisis par le rappeur. Camus, Césaire, Glissant, Sénèque, Sangor. Et une masterclass animée par Arnaud Laporte. Rendez-vous ce samedi de 14h30 à 18h30 au Théâtre de la Ville, Espace Cardin à Paris. Programme complet et réservation 01 42 74 22 77 et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous parlons bande dessinée ce matin avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter soit en direct à la radio tous les matins à 6h, soit en passant par le podcast ou l'écoute en ligne. Le Réveil Culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Valérie Lavalard. Et tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et des romans graphiques. Et aujourd'hui, on va parler d'une bande dessinée qui met en vedette un pirate, mais surtout s'amuse d'une manière jouissive à déjouer tous les codes des histoires de flibustiers qui ont fait notre bonheur, notamment à travers les romans d'aventure de Stevenson ou les films hollywoodiens. Un pirate, oui, mais de la pire espèce, cruel et alcoolique. Et même pas bagarreur, ce grand feignant. Portrait d'un buveur est le titre de cette bande dessinée éditée par Dupuis dans sa collection Air Libre. Et elle est signée par le duo Rupert et Mulot avec la participation de leur alter ego flamand Olivier Schrauen, une autre bonne référence de la bande dessinée avant-gardiste.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Rupert et Mulot.
Bonjour.
Bonjour.
Guy, il s'appelle Guy, notre pirate. Il est affreux, sale et cruel, pleutre, paresseux et alcoolique. Il s'appelle Guy, c'est un pirate à sa manière. Pourtant, le titre de cette bande dessinée est Portrait d'un buveur.
Oui, parce que effectivement, ce personnage, en fait, il devient un pirate. Et en fait, ce qu'il qualifie plus, c'est plutôt d'être un malfrat, en fait. Le point de départ de ce bouquin, C'était quand je crois que c'est, je sais plus il y a combien de temps, mais Jérôme il lisait L'île au trésor et il m'a conseillé de le lire aussi. C'était à un moment donné où moi j'avais du mal à lire. Je crois que c'est à cause de Facebook. Enfin, j'ai commencé ce livre, j'ai lu pour la première fois et effectivement on s'est rendu compte que L'île au trésor, donc qui est le livre qui a à peu près posé tous les jalons de du genre pirate. Le genre existait avant lui, mais c'est lui à peu près qui a un peu tout cristallisé, tous les ingrédients, tous les éléments. Et on s'est rendu compte en le lisant que, en fin de compte, toutes les productions qu'on pouvait voir ou lire ou Le Pirate des Caraïbes par exemple, il y avait quelque chose qui manquait. Un ingrédient important qui manquait, c'est que, en fin de compte, tous ces pirates qu'il y a dans l'île au trésor, eh ben, c'est des salopards. Et en fait, ils sont tous sincèrement horribles, ils font vraiment peur, ils sont vraiment lâches, ils sont vraiment dans des rapports d'humiliation, de domination des uns des autres. Et effectivement, ce côté un petit peu dur et presque réaliste, en fait, on le retrouvait pas, en fait, et on s'est trouvé que c'était une sorte d'injustice, et on s'est dit qu'on allait un petit
Vous
peu
voulez
pallier.
Vous voulez dire qu'on a idéalisé la figure du pirate ?
Édulcoré, ouais. Mmh. On l'a rendu un peu gentil.
Et on a enlevé sa capacité de boire beaucoup de rhum, et que cette ivresse leur permet de faire des choses sans laquelle, sinon, ils seraient incapables de faire la bagarre et de sauter d'un bateau à l'autre et de manier le sabre s'ils n'étaient pas un petit peu ivres.
Et pourtant, c'est ça qui nous plaît quand on voit un film d'aventure qui met en scène un ou des pirates. Il y a eu une grande exposition en 2002 où on a essayé de réhabiliter les pirates, où on se posait des questions, genre, est-ce que les pirates étaient des dissidents radicaux religieux? Est-ce qu'on pouvait traiter de la flébuste et de la piraterie comme une révolte sociale annonçant la Révolution française? Et vous revenez à nous dire, mais non, un pirate, c'est d'abord un voyou.
Ouais, tout à fait, parce que nous on parle du pirate qui vient de l'imaginaire. Nous on parle du pirate de l'histoire de pirate, qui est pas le même pirate que le pirate historique, le flibustier. Nous la tâche historique est très moindre. À vrai dire, on raconte la même chose que les enfants quand ils jouent au pirate. On n'a pas on parle pas de l'aspect vraiment politique. On parle plutôt du genre. Et effectivement. L'ingrédient alcool dans le livre de Stevenson est hyper important. En fait, ils ont tous des maladies d'alcool et ils sont jamais courageux. C'est tout ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils sont sous, en fait. Et ils sont tous un peu à moitié fous. Et donc voilà, nous c'est ça qu'on a voulu mettre en scène.
Alors il s'appelle Guy, votre buveur, puisque le titre de la bande dessinée c'est Portrait d'un buveur, Rupert et Mulot. Et le mot que l'on puisse dire c'est que vous êtes très à l'aise quand il faut développer une histoire autour d'un anti-héros.
Et au-delà du genre que décrivait Florent, on a fait attention aussi à garder ce genre-là, mais un petit peu à côté, à garder le capitaine, le bateau. L'errance en mer, les îles désertes, etc.
Mais toutes les batailles, il y a de belles scènes de batailles. Hein.
Mais en déplaçant un tout petit peu le point de vue et en s'attachant à garder en ligne de mire un personnage qui est très second voire troisième rôle, quoi, un petit gars, quoi, un mec, un petit pirate. Qui d'ailleurs à l'origine est juste engagé comme charpentier sur un bateau tout à fait régulier et qui se trouve embarqué dans cette histoire de pirate malgré lui et aussi grâce à son ivresse qui lui permet donc d'avoir du courage comme on disait. Mais notre attention s'est toujours portée à développer, à garder à faire le portrait de ce buveur là effectivement.
Il faut quand même rappeler qu'il tue, hein, c'est un assassin sans scrupules. Quasiment sous du début jusqu'à la fin de cette histoire de 176 pages, on peut le dire aussi. Et puis surtout, vous venez de le dire, hein, ce pirate, ce Guy, qui embarque en tant que charpentier sur une goélette en partance pour un pays arabe, Jazira, je ne sais pas où ça se situe, où vous situez ce pays, mais en tout cas, on est loin des Caraïbes. Pourquoi ce choix d'ailleurs ?
Quand on fait une BD de genre comme ça, on joue avec les codes, mais on veut aussi renouveler un petit peu le modèle. Et le but, effectivement, c'est de, comme dit Jérôme, d'avoir un personnage, mais quand même un petit peu en décalage. D'avoir un personnage quand même, si vous voulez, par exemple, dans sur les repas de famille, vous voyez, il y a une personne dont on s'intéresse généralement moins. C'est cet oncle, on sait qu'il est alcoolique, on sait qu'il tape probablement notre tante, il est plutôt, il parle pas trop dans les réunions de famille parce qu'il se cache plutôt, il boit tout doucement, il grommelle. Et il est lâche, et franchement, on est allé en vacances chez lui quand on avait 8-10 ans, mais on n'y est plus jamais retourné parce que ça se passe plus ou moins bien avec le reste de la famille. Oui, c'est le personnage un peu sombre, un peu glauque, un peu, en fait, franchement, sincèrement, dur hein, d'avoir de la sympathie pour lui. Et ben voilà, lui, c'est un peu lui le personnage de notre livre. C'est-à-dire que, c'est un salopard, je pense qu'on peut le dire. Mais on va trouver essayer de trouver la beauté un petit peu dans un personnage comme ça, sachant que ça va être dur pour le lecteur de s'identifier. On le sait, ça, à l'avance.
Ouais, d'autant plus qu'il est suffisamment moche pour que personne n'ait envie de s'identifier à ce personnage.
Ouais, voilà, c'est ça. Il est lâche en plus. Et effectivement, dans les romans de pirates, souvent, on a notre personnage principal est quelqu'un qui va bien manier l'épée.
Il va faire des scènes.
Et là, lui,
jusqu'à Johnny Depp.
Voilà, lui, Guy va plutôt se cacher en fait. Effectivement, on a un personnage qui fuit l'action. Et pour nous, ça c'est intéressant d'avoir effectivement un personnage secondaire qui est pas moteur en fait de l'histoire. Les personnages moteurs, ils sont dans d'autres endroits. Et nous, ça nous permet d'avoir un personnage effectivement qui va aller dans des recoins dans la cale, qui va aller toujours un petit peu à côté de la scène d'action. Mais ça va nous permettre de passer du temps avec lui, de le faire découvrir un petit peu les moteurs de sa personnalité, parce qu'il a une personnalité aussi un petit peu. Un peu faux, si vous voulez, comme ces alcooliques qui ont des traits d'humeur, qui vont passer d'un état de très mauvaise humeur à de l'euphorie bête et méchante. Voilà, c'est un petit peu un personnage comme ça qu'on a voulu décrire.
Voilà, ça c'est pour Florent. Jérôme Hulot, s'il fallait continuer ce portrait de votre buveur, de votre pirate, de ce Guy.
On le décrit aussi comme un personnage. Un personnage lâche, mais violent et tout ça, mais il y a aussi une forme d'humour. De le voir se cogner contre les murs, de le voir progresser, découper en plusieurs chapitres avec des grosses ellipses. Et à chaque fois, on saute, on monte une marche un peu dans son degré d'ivresse, et on passe de l'alcool gentil, mondain, un petit peu léger, comme ça, à vraiment les cauchemars et les delirium tremens et tout ça. Au fur et à mesure, on rentre aussi dans sa tête, dans ses remords, dans ses culpabilités, dans son...
Oh, si peu de remords, si peu de culpabilité.
Ben, il est quand même hanté par les gens qu'il tue, il y a une espèce de monde parallèle qui s'ouvre.
Alors justement, parlons de la forme d'ailleurs tout de suite de cette bande dessinée et de votre collaboration avec votre collègue belge Olivier Schroen qui vient mettre de la couleur dans votre univers en dessin fin, votre très fin en noir et blanc, mais je suppose qu'il n'est pas seulement coloriste dans cette aventure.
Tout le livre a été écrit à trois et on l'a dessiné à trois et c'est lui seulement, Olivier Schroen, qui fait les couleurs. Et pour l'écrire, on a pris le parti pris d'emblée. Si vous voulez, quand on écrit une histoire, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a le début, on a la scène finale, on a quelques scènes au milieu, et le travail de scénariste va être de raccorder un petit peu tout ça et faire une histoire simple, en mettant tous ces boules bout à bout. Là, on a décidé de faire autrement. On a écrit le chapitre 1. On a décidé de faire confiance à ce personnage parce que le bande dessinée vraiment est centré sur lui. Et donc on a écrit le premier chapitre. On n'a pas essayé de chercher à savoir où ça allait. On a écrit notre deuxième chapitre ensuite sans chercher à aller plus loin. Genre vraiment tant qu'on n'avait pas, donc on savait pas ce qui se passait dans le chapitre 2, on n'écrivait pas le chapitre 3. Et on a effectivement mis entre chacun de ces chapitres des grandes ellipses de temps. Pour, si tu veux, faire avancer et donner un côté un peu plus aventure pour que ça avance plus vite.
Let me me begin with a hardy ho-ho and a tale that nobody tells well. I've not come all the way from N-C-I-N-O to be treated like sewage that smells. I'm certainly not that surprised, for this story is older than time. Me peg-legged pirate and brethren and I are society's slug-ridden slime. We've all been cast out as scallywag rogues with fire in our beards and our eyes. There's a side to us pirates that nobody knows, and it's soft as a baby's backside. Some of us just want adventures, the open sea wind in our earrings. Why are we constantly misunderstood? Don't you know pirates have feelings?
Poor pirates, P-O-O-R. Poor pirates, P-O-O-R. Poor pirates can't deny this simple truth. Poor pirates, P-O-O-R.
People too.
Nice harmonies, mateys! Think of how hard we have had it.
So hard.
Out on ships there is not much to eat.
Not much to eat.
And dentists hate pirate insurance.
No, oh no. Which is why we've so many gold teeth.
Stays damp and me boots start to sink, and me fingernails filthy and dirty. Me internet loads unbelievably slow,
and me bedtime's around 7:30. Poor pirates, P-O-O-R. Poor pirates, P-O-O-R.
Le pirate de Rupert Nulot et d'Olivier Schrawan, puisqu'ils sont trois à signer cette bande dessinée éditée chez Dupuis dans la collection Air Libre, Portrait d'un buveur. Guy, lui aussi, il chante plutôt faux d'ailleurs. On sent qu'il chante comme une casserole. On a parlé de ses turpitudes, on a parlé de son côté cruel et presque inconscient d'ailleurs. Hein. Il est tout à la fois très cruel et très inconscient.
Bah c'est pas qu'il est inconscient, c'est qu'il est sous en fait. Il a la bêtise de l'homme bourré, et ses chansons, c'est plus des chansons qu'il fait subir en fait aux gens autour de lui. Les gens, ils subissent son ivresse.
Ouais, bah, il continue à chanter pour avoir aussi de l'argent, c'est-à-dire qu'il est...
Ah oui, tout au début. Ouais. Au début, c'est la chanson de présentation où il chante, mais c'est pareil, c'est à la fois bête et voyez ouais, un petit peu cette.
Mais vous l'aimez ce Guy ? Est-ce que vous l'avez aimé au fur et à mesure que vous avanciez dans ce récit ? C'est quelque chose. C'est un personnage qui peut être attachant.
Ben bien sûr, bien sûr. Alors nous,
bien sûr, on essaye. Ça mérite explication. Hein.
Non, bien sûr. Mais nous, on n'essaye pas de le faire et de le faire aimer. Moi je l'adore, je trouve qu'il est mais j'essaye pas non plus de me l'excuser sa méchanceté, plutôt pour moi c'est plutôt un artiste de la bêtise, moi je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans la bêtise. C'est quelque chose qui est effectivement intéressant en tant qu'auteur à explorer, et lui il est juste magique. Et il y a ce phénomène un petit peu quand on fait de la bande dessinée de créer un personnage et puis de le dessiner, vu qu'on n'est jamais parfaitement sûr de sa main. Il y a toujours des accidents quand on dessine, et pareil quand on écrit un personnage. Et il y a un petit peu un phénomène où le personnage prend vie devant soi. Et c'est toujours un moment assez particulier quand on fait un livre. Et lui, je sais que c'est un moment donné qui a été compliqué avec Olivier Schrawan. Le bouquin, on avait failli l'arrêter plusieurs fois. Je vais pas vous mentir. Mmh. Et je crois que c'était ça. C'était que, en fin de compte, c'est un personnage qui est tellement compliqué.
Vous étiez peut-être le seul à l'aimer, hein, Florent. Rupert.
Je pense qu'on.
Jérôme Hulot est avec nous. Dites-nous, parce que il vient de nous déclarer une passion amoureuse pour un personnage très antipathique, assassin.
Non, mais après, il y a différentes façons d'aimer un personnage. Effectivement, il y a ce qu'il représente et ce qu'il fait et ce qu'on lui fait faire. Il y a aussi une plasticité du personnage, c'est-à-dire que ça reste aussi une marionnette qu'on déplace, avec laquelle on joue. Et donc là, c'est Olivier qui s'est occupé de le dessiner et tout ça.
Et pourquoi il a failli arrêter? Pourquoi vous avez failli le laisser tomber, ce personnage?
Parce que, à un moment donné, ça a dérivé vers quelque chose de peut-être trop comique, justement, où on se moquait de lui, on se moquait de son ivresse, on lui faisait peut-être des croques en jambes, où il avait trop d'assurance et se mettait à...
Et qu'est-ce qu'on fait dans
il se mettait à être sympa, en fait, et c'était pas...
Ouais.
Il fallait toujours quand même faire attention de pas déformer sa réelle personnalité qui est pas celle d'un mec sympa, c'est sûr. Ouais.
Alors, le découpage de cette histoire, je rappelle, donc portrait d'un buveur, on retrouve un peu votre patte, hein, c'est-à-dire des cases dans des cases, mais cette fois-ci, il y a des ruptures de ton et de couleur. Est-ce que ça répondait à quelque chose? Est-ce qu'il fallait comprendre quelque chose à ce traitement de la couleur qui intervient d'une manière plutôt aléatoire, hein, c'est-à-dire à force de chercher une explication, on finit par laisser tomber parce qu'on est pris par l'histoire et surtout par les cruautés de votre pirate.
Mais oui, c'est ça. Il fallait pas chercher à comprendre. Il fallait juste ressentir.
Ouais, et puis elle agit un peu comme pourrait agir la musique d'un film. On dit toujours qu'une musique est réussie quand on l'a pas entendue. En fait, c'est que elle a glissé avec la séquence, avec la narration. Elle a mis des impressions, elle a ramené de la sensibilité, elle a ramené de la couleur ou du contre-jour ou des choses, mais qui n'embêtent pas la fluidité du récit et qui viennent juste la porter, la glorifier, là, je sais pas comment dire. Ouais.
Ah, parce que donc si je décris un petit peu, en fait, cette question, elle vient du fait que, en fait, il y a des cases en noir et blanc et il y a des cases en couleur, ou des fois il y a des cases en noir
en
et blanc.
Ouais,
voilà, ou des fois des juste toute la page est en noir et blanc et certains juste un décor va être en couleur. En fait, les choix sur la couleur, pourquoi il y a des endroits il y en a et des endroits il n'y en a pas, c'est uniquement utiliser la couleur pour ce qu'elle donne d'impression émotionnelle et ce qu'elle va avoir comme influence sur ce qui se passe à l'intérieur des personnages. On utilise souvent cette technique qui est pas nouvelle, hein, que Vincent Van Gogh par exemple il fait très bien, c'est d'utiliser le décor et les couleurs pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur du personnage. Et donc nous, on est souvent là-dedans. On va utiliser des couleurs même très clairement dans la collaboration. Pour nous, c'était assez dur parfois parce que nous on fait pas de couleurs. On sait pas très bien faire ça, mais donc là, lui, Olivier Schreiben faisait toute la couleur et nous, on arrivait. L'organisation du départ, c'était comme ce qu'on avait fait avec Bastien Vivès quand on a fait la Grande Alice Olympia.
Deux tomes, toujours chez Dupuis dans la collection Air Libre.
Là, ce qu'on avait décidé, c'est de faire comme avec Bastien Vivès, c'est-à-dire, nous, Rupert Rémulo, on fait les décors, et Olivier Schraven fait les personnages. Et les personnages principaux et les personnages secondaires, on se les partage. Donc c'est comme ça qu'on avait fait avec Bastien. Avec Bastien, c'était hyper efficace. On a fait un livre en petit peu moins d'un an, ça roulait comme du papier à musique. Avec Olivier Schraven, c'était l'inverse. Le livre a mis 3 ans à se faire, et lui... Il a un rapport, une façon de travailler qui est vraiment pas du tout comme la nôtre. Il est il est un peu fou, je crois, dans sa façon de travailler. C'est vraiment un artiste au sens romantique, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre un chapitre entier qui est super bien. Nous, on a cette tendance avec Jérôme de, quand on fait un dessin, de voilà quasiment l'encadrer. On aime trop, voilà, parfait. On est beaucoup de préparation, mais quand le dessin est fait, voilà, faut surtout pas y toucher. Et lui, il est capable de prendre un chapitre en entier, le mettre à la poubelle ou reprendre des dessins et retravailler, mettre, il fait des couleurs à la gouache sur nous, des décors où avec tout est fait au trait hyper précis. On a fait des études pour représenter Bruges, le Bruges de l'époque, avec les salissures, les épluchures de pommes de terre, tout au détail près. Et lui, il arrive et il met de la gouache partout, on ne voit plus rien au dessin, et il a fait ça sur tout le livre, en fait. Et donc pour nous, c'était assez
Et puis il y a une idée très originale qui rend le portrait d'un buveur vraiment comme un livre très à part, c'est que, on l'a dit, hein, il y a beaucoup de crimes, c'est assez gore, même s'il y a une dimension guignole, mais ces crimes atroces dans cette aventure vous donnent une idée, vous permettent d'avoir cette idée, mais vraiment audacieuse, c'est de donner vie aux morts, si j'ose dire, car il y a un deuxième récit qui accueille au fur et à mesure les victimes de Guy, des morts en décomposition qui vont être transformées en voyeurs des turpitudes du pirate assassin.
Je me souviens très bien que quand on a commencé la collaboration, Olivier voulait qu'on fasse un livre assez expérimental, assez proche de nos premiers travaux qu'il aimait bien. Et
à l'association.
Voilà, donc avec des plein de petites cases et puis des découpages comme ça un peu compliqués. Et nous, à l'inverse, on était à ce moment-là dans une volonté de faire des récits plus linéaires et plus, on va dire, plus dans la construction de ce qui est raconté et avoir une mise en case assez simple. Donc, lui, malgré tout, voulait qu'il y ait des choses expérimentales dans le truc. Et on avait repensé dans ce qu'on avait fait à Sol Carlus, où à l'intérieur, dans les ellipses dont on parlait, dans les entre-chapitres, de faire des espaces qui résument, qui accompagnent, qui viennent mettre un...
Non mais cette idée de
ponctuer le récit.
Ouais, mais cette idée de dire les morts, voilà. C'est-à-dire quelque chose de tragique, ils vont continuer à vivre. Ça, je pense que ça adoucit le côté assez gore de votre histoire.
Ça l'humanise en fait. L'humanise. C'est que ça vient. Effectivement, l'autre jour, Florent, tu parlais de la magie noire qui existe quand tu tues quelqu'un. Effectivement, cet acte-là reviendra toujours te hanter, et quelle que soit ta trajectoire ensuite, t'emporteras toujours la responsabilité, ça sera inscrit en toi. Et que, effectivement, à des degrés divers, tout ce qu'on fait revient toujours un petit peu comme des pensées cauchemardesques, comme des petites fièvres qui remontent comme ça de temps en temps. Et là, sous le prisme de l'alcool, comme il est dans une fièvre un peu progressive et de plus en plus forte, que ces pensées-là qui le hantent se pourrissent et enfin macèrent dans son esprit, ça venait vachement humaniser en fait ce côté très froid et qui peut être mécanique, quoi. Comment on tue quelqu'un en bande dessinée, s'agit pas juste de planter un coup de couteau dans le dos, il faut que cet acte-là soit charnel et finalement soit vraiment à l'intérieur de son corps, comme une lente macération de feuilles de compost. Je sais pas.
Portrait d'un buveur. Schrawan, Rupert, Emilo. Rupert, Emilo, ça fait maintenant quelques années que vous formez le vieux couple de la bande dessinée indépendante avant-gardiste. Vous êtes connus à Dijon pendant vos études. Ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez ensemble? Une quinzaine d'années?
Notre premier livre est sorti en 2005.
Presque 15 ans.
Presque 15 ans.
Vous avez l'impression de vous connaître de mieux en mieux ou...
Comme les vieux couples, quoi. On se connaît par cœur. Je sais ce que va dire Jérôme avant qu'il le dise.
Jérôme, alors?
Ouais, ça, c'est vrai, effectivement.
Et c'est édité, bien sûr, par Dupuis dans la collection Air Libre. C'est la bande dessinée qu'on vous recommande vivement cette semaine. Merci d'être venu, Rupert et Mulot.
Merci de nous avoir invités.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque vendredi dès 18h20, le rendez-vous du Bel Air. Hervé Gardette, Arnaud Laporte.
Tiens Hervé Gardette.
Mon Dieu, mais c'est vous Arnaud Laporte?
Vous m'avez reconnu, je n'ai pas changé. Et une chose qui ne change pas, c'est qu'on donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs au Bel Air tous les vendredis. Pourquoi?
Alors, 18h20, c'est le Club des Idées.
19h, la dispute cinéma ou série.
Tous les vendredis dans Co-Bel Air.
Les experts.
Le rendez-vous du Bel Air, en direct, en public, du bar de la Maison de la Radio, tous les vendredis à 18h20 et sur franceculture.fr. Parlons culture autrement, l'anachronique culturelle, Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps ? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren ou à la première du Sacre du Printemps. L'Anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'Anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à toutes et tous. Les djihadistes français Jean-Michel et Fabien Klein ont été visés par une frappe de la coalition en Syrie. Fabien Klein est annoncé mort. Nous reviendrons sur la traque menée par la coalition internationale. Dans ce journal aussi, nous irons en Espagne où le gouvernement a conclu un accord avec le Maroc et ce pour ne pas accueillir tous les migrants secourus en mer Méditerranée. Le mystère des bébés nés sans main dans plusieurs départements français. Hier, une réunion d'information avait lieu. Nous y étions. Et puis, retour sur l'audition d'Alain Juppé à l'Assemblée hier également. Il était auditionné pour intégrer le Conseil constitutionnel. Nomination validée. C'était l'un des djihadistes les plus recherchés. Fabien Klein, la voix française du groupe État islamique, a donc été tué mercredi après-midi en Syrie. Radio France vous le révélait hier. Fabien Klein a été neutralisé par une frappe aérienne de la coalition. Il était à Baghouz, dernier bastion de Daesh. Son frère était présent également, Jean-Michel Klein, lui est grièvement blessé. Les deux hommes faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt depuis le mois de juin dernier, depuis presque un an. Ils avaient enregistré le message audio revendiquant les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Comment ont-ils été traqués, ciblés ? Dans le cas de la Syrie, c'est le fruit d'une coopération entre pays avec l'appui de moyens technologiques, Nathalie Hernandez.
Une traque comme celle des frères Klein peut prendre des mois. Les djihadistes vivent dans la clandestinité et se déplacent entourés de femmes et d'enfants pour ne pas être ciblés. Pour arriver à les repérer, la France et les États-Unis coopèrent depuis le début contre l'organisation terroriste. Les deux pays échangent des informations, informations qui sont recueillies grâce à des drones de surveillance capables de fournir des données GPS et des images très détaillées. On arrive par exemple à distinguer la couleur d'un véhicule, voire de vêtements. Autre source précieuse, les téléphones portables qui donnent la position de la personne et permettent de capter les échanges ou les conversations. Et puis il y a les sources humaines, ce peut être des habitants, des civils qui fuient l'enclave ou encore des agents infiltrés, des clandestins. Ils peuvent livrer des éléments déterminants. Une fois un maximum de données rassemblées, un drone va survoler la zone où se trouvent les djihadistes. L'appareil de 5 tonnes peut alors voler pendant 24 heures sans discontinuer entre 3000 et 8000 mètres d'altitude avant de frapper.
C'était les précisions de Nathalie Hernandez pour France Culture. La tension monte encore au Venezuela autour d'une éventuelle arrivée d'aide humanitaire. Le président vénézuélien en exercice refuse cette aide. Nicolas Maduro annonce d'ailleurs la fermeture de la frontière avec le Brésil et il menace de faire pareil près de la Colombie. L'opposant Juan Guaido a lui quitté Caracas hier accompagné d'environ 80 députés. Il souhaite rejoindre la frontière colombienne pour y faire entrer l'aide humanitaire à partir de demain. Ce vendredi aura lieu également un duel de concert à cette frontière colombienne. L'un pour demander l'entrée de l'aide humanitaire américaine au Venezuela. L'autre pour dénoncer une agression des États-Unis dans le pays. L'Espagne a conclu un accord avec le Maroc pour ne pas accueillir tous les migrants sauvés en mer. Après avoir donné des gages d'ouverture en accueillant l'Aquarius et ses migrants à Valence, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez cherche maintenant des solutions plus durables. Il s'est donc tourné vers Rabat, Mathieu de Taillac.
Jusqu'à présent, les migrants secourus en Méditerranée par l'Espagne étaient systématiquement débarqués dans des ports du pays, même s'ils avaient été recueillis à proximité des côtes africaines. Pour la première fois, les services de secours espagnols auront une autre possibilité. Selon le journal El País, Madrid est arrivé à un accord avec Rabat. Lorsque les sauveteurs en mer participeront à des opérations conjointes avec la marine marocaine, et à condition que le port sûr le plus proche ne soit pas espagnol, ils pourront déposer les personnes secourues dans des ports marocains. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez pour réduire de moitié les entrées irrégulières de migrants après une année 2018 record marquée par plus de 60 000 arrivées de ce type. Ce nouveau plan répond à l'inquiétude nouvelle et croissante des Espagnols face au phénomène migratoire et à l'émergence du parti d'extrême droite Vox. Rabat est particulièrement bien disposé à l'égard de Madrid qui vient de convaincre l'Union européenne de débourser 140 millions d'euros pour aider le Maroc à faire face aux flux migratoires à ses frontières. La mesure ne fait toutefois pas l'unanimité. Certains professionnels des opérations de sauvetage espagnoles se souviennent de migrants qui s'étaient mutinés quand ils avaient appris que l'équipage comptait les débarquer au Maroc.
Pour secourir des migrants en mer Méditerranée encore, la France, elle, de son côté, a annoncé hier qu'elle allait livrer 6 embarcations rapides à la marine libyenne. Cela pour lutter contre l'immigration clandestine, précise le ministère des Armées. Il ne jette pas l'éponge et dit chercher une solution. Le patron d'Altifor espère tout de même pouvoir reprendre l'usine d'Ascoval. Et ce, malgré un premier refus de financement qu'il a admis hier. Le ministère de l'Économie cherche de son côté un nouveau repreneur pour Ascoval. À Saint-Saulve dans le Nord, la scierie emploie 281 salariés. Le plan de reprise doit être de nouveau examiné la semaine prochaine au tribunal de grande instance de Strasbourg. Comment lever le mystère des bébés nés sans main à Guidel en Bretagne, dans l'Ain également ou dans les Pays de la Loire. Pour la première fois hier, des familles ont pu participer à une réunion du comité d'orientation et de soutien. Il s'agit d'un des deux cercles de réflexion installés par l'État pour relancer les enquêtes sur le terrain. Ces familles ont au moins été satisfaites hier, assez rassurées de voir que les autorités prenaient leur cas au sérieux, Tara Schlegel.
Quatre familles ont fait le déplacement pour renouer le dialogue et il y a eu des progrès, reconnaît Samuel, le papa d'Aliénor qui vit en Bretagne.
Le côté positif, c'est qu'effectivement, il y a eu enfin des interlocuteurs, ce qui est quand même pas mal. Avant, c'était des boîtes mail ou des boîtes postales, donc à partir de là, c'est déjà une avancée. Et puis d'autre part, on a pu rencontrer effectivement d'autres personnes avec lesquelles on a pu échanger. On a l'impression déjà de ne pas être seul, de ne pas être paranoïaque, parce que finalement, il y a d'autres personnes qui ont un peu le même point de vue sur la situation que nous.
Aux côtés des familles, il y avait aussi les registres qui surveillent les malformations de leurs enfants. Emmanuel Amar pilote celui de l'Ain et elle s'est félicitée qu'on s'intéresse désormais aux malformations animales. Une question qu'elle avait soulevée il y a longtemps.
Les malformations chez les veaux, chez les animaux qui étaient totalement niées. Et là, maintenant, on a quand même parlé d'une recherche de l'ANSES vis-à-vis des bovins. Donc, ça veut bien dire qu'on les prend en compte, quoi.
Quelques progrès, donc, mais deux bémols à cette première réunion, disent les parents. Isabelle Grassin, l'une des mamans, regrette de ne pas pouvoir dialoguer directement avec l'autre comité créé en parallèle.
Les membres du comité d'experts scientifiques resteront anonymes jusqu'au mois de juin, en tout cas la publication de leurs résultats.
On vous a dit pourquoi ?
Pour garantir un travail de qualité et qu'il n'y ait aucune pression extérieure.
Et puis, autre déception relevée par Samuel, cette fois, le patron de Santé publique France s'est rapidement éclipsé.
Il a participé au discours introductif avec le directeur de l'ANSES et puis le président du comité d'orientation et de suivi. Et ensuite, il est parti, donc c'est vrai que je trouvais ça un peu dommage parce que finalement, c'était le seul interlocuteur que nous, on connaissait.
Les parents espèrent avoir l'occasion de lui poser toutes leurs questions lors de la prochaine réunion en avril.
Tara Schlegel qui a enquêté sur ce mystère des bébés sans main, une alerte longtemps ignorée. C'est un grand reportage et un article internet détaillé à retrouver sur franceculture.fr. La députée La République En Marche, Agnès Thil, dit n'avoir reçu qu'une simple mise en garde de la part de son parti. Plusieurs de ses collègues avaient pourtant demandé son exclusion. Agnès Thil avait estimé il y a quelques semaines que l'ouverture de la PMA pour toutes favorise, je cite, l'éclosion d'écoles coraniques. Elle reçoit donc une mise en garde de La République En Marche et s'engage à faire attention à ses propos. Lui pourrait bien siéger au Conseil constitutionnel. Il pourra bien siéger au Conseil constitutionnel. Alain Juppé a été auditionné hier par la Commission des lois à l'Assemblée nationale et les députés ont validé sa nomination à 21 voix contre 4. Rosalie Lafarge était présente auprès du maire de Bordeaux.
Ému de retrouver les salles de l'Assemblée, mais un peu stressé de son propre aveu, Alain Juppé a accompli son devoir, convaincre les députés de la Commission des lois de la légitimité de sa nomination au Conseil constitutionnel. Alors qu'il le reconnaît d'emblée, la proposition de Richard Ferrand l'a franchement surpris.
Elle m'a surpris parce que je me suis d'abord demandé si j'en étais digne.
L'ancien Premier ministre s'est demandé si sa condamnation pénale pouvait constituer un obstacle juridique.
Monsieur Ferrand m'a rappelé pour me dire qu'il n'y avait pas d'empêchement juridique. Mais il y a évidemment dans tout cela une dimension morale que je ne veux pas éluder. J'ai eu ce débat en bonne âme et conscience J'ai purgé ma peine et peut-être le temps peut-il donner droit à l'oubli.
Et Alain Juppé de rappeler que les électeurs bordelais lui ont fait confiance 3 fois. Il y a vu une forme de pardon, mettant en avant sa fine connaissance des rouages du pouvoir local, national, international et sa grande pratique de la collégialité à Bordeaux. Il s'est engagé à la neutralité et l'esprit de modération. Du vent pour le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis.
C'est Vidocq, en fait, hein, qui rentre au Conseil constitutionnel. Il va être dans la continuité de ce que produit aujourd'hui le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout indépendant, pas du tout neutre, comme on veut bien nous le faire croire, mais des gens qui maintiennent l'ordre établi, alors même que s'en sont peu souciés de l'ordre, en tout cas, ou de la loi, pendant leur vie politique.
Mais désormais validée par les députés, la nomination d'Alain Juppé va pouvoir être rapidement publiée au Journal officiel. Ne reste plus que la prestation de serment devant le président de la République. Les sages s'y engagent à exercer leurs fonctions en toute impartialité et à ne prendre aucune position publique pendant leurs 9 ans de mandat.
Alain Juppé deviendra donc sage à la place de Lionel Jospin à partir de début mars. Enfin, c'est fait, la première sonde lunaire israélienne a décollé cette nuit de Cap Canaveral. Si l'alunissage réussit, d'où le seront dans 7 semaines, eh bien l'État hébreu deviendra le 4e pays à avoir atterri sur la Lune. Une Lune bien visible au petit matin ce vendredi en l'absence de gros nuages. Le temps s'annonce toujours ensoleillé avec 5 degrés à Paris ce matin, 8 à Strasbourg, Rennes et Amiens, jusqu'à 16 degrés à Perpignan. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
À 6h40 sur France Culture, vous nous rejoignez pour le Journal des Idées et nous tremblons ce matin. Vous avez décidé, Jacques, de vous intéresser aux fantômes. Ils continuent de hanter l'imaginaire et la mémoire. Des géographes ont d'ailleurs entrepris d'interroger leur relation au lieu.
Oui, Francine Barthes, Marie Abonte, Zara Fournier et Jérôme Tadier ont coordonné la dernière livraison de la revue Géographie et Culture, publiée à l'Harmattan sous le titre cette fois-ci donc de Géographie des fantômes, à laquelle tous ont également contribué. Le fantôme, je cite, souligne combien les traces du passé, qu'ils soient conflictuels ou non, continuent d'influencer les pratiques, les usages et les représentations de certains lieux. Les violences subies, la vie inachevée accentuent cette présence, comme à Beyrouth après la guerre, dans cette réflexion de l'écrivain Selim Nassib. La guerre est finie bêtement, sans qu'il ne se passe rien, sans un regret, sans un élan. Elle n'a rien laissé à penser. Tous les cadavres sans sépulture vont remonter, forcément. C'est la figure traditionnelle du fantôme, celle du revenant, à laquelle correspond l'espace des ruines. L'enquête sur l'usage actuel des lieux nocturnes et festifs à Beyrouth, notamment ceux qui se sont implantés dans les anciennes zones de conflit, fait apparaître la dimension subjective, voire surnaturelle, de la perception de l'espace. Et dans un pays où il n'y a pas eu de processus de réconciliation, le passé qui ne passe pas s'incarne dans ces ruines restées visibles sur l'ancienne ligne de démarcation où se sont installés cafés et boîtes de nuit, comme pour conjurer les fantômes tout en les célébrant. Le bar Checkpoint Charlie est coupé en deux parties, est et ouest, séparés par un mur et un faux poste militaire faisant office de cabine de DJ. Et sur les tables, des bombes de peinture sont posées, évoquant la guerre des graffitis. Pour ceux qui ont vécu les nuits agitées, effrayantes du quartier pendant la guerre civile, c'est une forme de catharsis. Sinon, les villes ont plutôt tendance à effacer ces lieux fantômes. À Paris comme ailleurs, l'histoire des classes populaires et de leurs combats reste le plus souvent invisible. On sait où ont dormi et travaillé les puissants, les rois, les intellectuels célèbres, les grands hommes, rarement les grandes femmes. Mais pour les insurgés, les ouvriers, les immigrés, les marginaux, les traces sont rares. C'est pourquoi deux journalistes de Libération lancent aujourd'hui sur le site du quotidien une cartographie historique et interactive du Paris populaire, appelé à se développer, en s'appuyant sur les travaux des chercheurs, les journaux d'époque et les archives. Ils s'en expliquent dans les pages idées, comment deviner par exemple que la butte Montmartre est le lieu d'origine de la Commune de Paris, lorsque le 18 mars 1871, au matin, des femmes et quelques gardes nationaux s'interposent entre l'armée et les canons que le gouvernement veut confisquer. La lourde basilique du Sacré-Cœur, construite pour expier les fautes des communards, impose depuis lors sa froide réprobation à toute velléité de révolte. Pour mieux comprendre ce qui lui reste d'emprise sur les esprits, il faut rendre à l'idée sublime de l'Union européenne son aura d'origine, écrit Régis Debray dans « L'Europe fantôme » qui vient de paraître chez Gallimard. Et notamment, rappeler à ceux de ses 27 membres qu'il aurait oublié d'où vient la bannière bleue aux seulement 12 étoiles d'or de l'Apocalypse de Jean. Je cite « Un signe grandiose apparu au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe et 12 étoiles couronnent sa tête, 12 comme les apôtres, les portes de la Jérusalem céleste et les tribus d'Israël. Mais la vision mystique s'est défraîchie, le projet politique encalminé, du fait notamment de la stratégie furtive de ses fondateurs qui réussirent en avançant masqué à lancer l'Europe économique pour accréditer et acclimater un agenda politique. Aujourd'hui, délestée de son aura, celle des fins dernières, l'Europe, réduite à ses astreintes budgétaires, ne fait plus soupirer mais grincer. Reste néanmoins, comme disait Valéry, les mythes qui sont les âmes de nos actions, de nos amours. Nous ne pouvons agir qu'en nous mouvant vers un fantôme. Nous ne pouvons aimer que ce que nous créons. À Lisbonne, le fantôme du poète Fernando Pessoa est partout présent, relève Michel André dans le mensuel Books à l'occasion de la parution en portugais de la biographie de Carlos Taibo. Son titre, Comme s'il ne foulait pas le sol, reprend une remarque d'Ophélia Queiroz, la jeune femme aimée, à propos de sa manière de marcher. Le poète aux nombreux pseudonymes, chacun doté d'un style particulier et identifiable, accordait sans doute ainsi son allure à sa personnalité fantomatique qui se démultipliait pour exister. En portugais, Pessoa signifie une personne, pas au sens du pronom indéfini dans notre langue, qui induit une ambiguïté entre la personne et personne, une ambiguïté qui l'aurait sans doute amusé, lui qui écrivait dans Bureau de tabac « Je ne suis rien, je ne serai jamais rien, je ne peux vouloir être rien, à part ça je porte en moi tous les rêves du monde ». Vous écoutez France Culture, il est 6h45, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui le Venezuela, l'aide humanitaire est-elle un cheval de Troie?
Eh oui, on va voir
encore
ça.
Encore un fantôme.
Encore un fantôme, en tout cas des soupçons et puis un suspens réel quand même avec ce Venezuela sous haute tension avant la date butoir, hein, demain pour l'arrivée de l'aide humanitaire internationale. Show politique, disait Nicolas Maduro, qui craint effectivement un prétexte, hein, pour une intervention militaire, un mois après que Juan Guaido s'est autoproclamé président du Venezuela. C'est une nouvelle étape dans la guerre des légitimités et on voit ça avec vous Jean-Jacques Orlianski, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine. Alors, deux présidents, deux fournitures d'aide humanitaire, deux concerts de soutien tout à l'heure à 300 mètres l'un de l'autre, pendant que Juan Guaido tente d'approcher toujours de la frontière avec la Colombie. Nicolas Maduro a déjà fermé celle avec le Brésil, qui va plier l'armée Guaido-Maduro. En tout cas, cette fois, ce qu'on peut dire, Jean-Jacques Orlianski, c'est que tout le monde est un peu au pied du mur dans les prochaines 24 heures.
Oui, peut-être qu'il faut essayer de regarder un peu plus loin sur le caractère assez insolite de ce qui est en train de se passer, où on parle beaucoup d'humanitaire, mais finalement, l'impression que l'on a, c'est que l'humanitaire est un prétexte.
Un prétexte, il y a quand même une réalité de la crise, hein, si on peut alors, en dire un mot.
Effectivement, il y a une situation de crise économique et sociale au Venezuela. Il y a, selon les Nations Unies, plus de 2 millions de personnes qui sont parties pour des raisons économiques, hein, pour chercher à vivre mieux ailleurs. Cela dit, la situation est assez paradoxale. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis, 12 pays latino-américains et une demi-douzaine de pays européens, qui font de l'ingérence humanitaire au Venezuela, d'une main, tout en pratiquant de l'autre une politique de sanctions extrêmement dure, qui aggrave la situation humanitaire de la population vénézuélienne. Selon des sources du Conseil de sécurité des États-Unis, le Venezuela sera privé de 11 milliards de dollars cette année, 11 milliards de dollars qui auraient pu être consacrés à l'importation de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques qui auraient permis de résoudre la situation humanitaire.
Alors ça c'est donc, pour le grand tableau. Juste un mot sur l'urgence de la situation. Quand Juan Guaido dit par exemple que des centaines de personnes risquent de mourir si l'aide n'entre pas immédiatement, est-ce qu'il a tort, sachant que je crois qu'il y a 20 à 30 personnes qui meurent déjà du sida chaque jour, faute de médicaments justement.
Donc la situation, je vous dis, est difficile, mais elle est aggravée par les sanctions. Donc on est là dans une situation paradoxale. Il faudrait savoir si, pour les pays qui sont engagés dans une opération humanitaire au Venezuela, quel est leur degré de sincérité. Si effectivement, pour ces pays, l'humanitaire est l'essentiel, il y aurait une solution très simple pour éviter tout équivoque. Ça serait de confier tout ce qui est arrivé par des ponts aériens ou par camion à la frontière de la Colombie ou à la frontière du Brésil à une agence des Nations Unies ou à la Croix-Rouge internationale.
Alors justement, aujourd'hui, le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge doit se rendre à Caracas. C'est peut-être une ouverture, selon vous ?
Il y a déjà eu des appels du pied de la Croix-Rouge en signalant que nous, en tant que Croix-Rouge, on ne fait pas de politique, on fait de l'humanitaire. Donc, il a fait part de sa disponibilité. Pour l'instant, le contexte n'est pas celui-là. Il est celui, plutôt, d'une instrumentalisation de l'aide humanitaire pour d'autres objectifs. Et la question, là, doit être posée. Quels sont les objectifs réels?
Justement.
Alors, est-ce qu'il s'agit, si on met de côté l'humanitaire, on fait le constat, qui est un simple constat, que l'humanitaire est un prétexte, est-ce qu'il s'agit de défense des libertés et des droits de l'homme? Donc, effectivement, le Venezuela n'est pas un pays exemplaire en matière de liberté et des droits de l'homme. Je ferai malgré tout le constat que le président autoproclamé est un président d'Assemblée nationale, là c'est incontestable, c'est incontesté, d'opposition. Donc on est dans une situation assez ambiguë, on n'est pas dans la situation de la Chine, on n'est pas dans la situation de l'Arabie Saoudite, on n'est pas dans la situation de l'Égypte. Alors est-ce que ça veut dire que les États-Unis et les pays qui suivent les États-Unis sur ce dossier vont également se livrer à des politiques d'ingérence active vis-à-vis de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, donc qui a découpé l'un de vos collègues en petits morceaux,
Jamal Khashoggi,
un journaliste dans le consulat d'Arabie en Turquie, ou vis-à-vis de la Chine qui pratique la peine de mort par centaines.
Alors qu'on en revienne au Venezuela.
Non, ça ne sera pas le cas non plus.
Non, mais il y a donc cette effectivement contestation des légitimités. Ce président de l'Assemblée nationale, autoproclamée assemblée dont les pouvoirs elles-mêmes ont été réduits, d'où et effectivement tout un débat sur la légitimité. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui avec cette aide humanitaire? Je le disais encore une fois, dans les prochaines 24 heures, est-ce que c'est de faire plier l'armée, de la mettre au pied du mur de cette sorte qu'elle puisse se prononcer en faveur ou non du régime de Maduro? Ou est-ce que c'est une guerre d'image, disons, qui a le plus de légitimité pour apporter cette aide?
L'enjeu, c'est le départ de Nicolas Maduro, qui dispose d'une énorme clé que personne dans l'opposition n'a pu rompre. Parce que c'est l'armature du régime vénézuélien, le soutien de l'armée. Il ne faut pas oublier qu'en 2002, l'opposition avait essayé de renverser Hugo Chavez par des moyens militaires. Il y avait eu un coup d'État. Et qu'à l'issue de ce coup d'État, Hugo Chavez avait épuré l'armée. Et que depuis cette date, l'armée a été étroitement associée à la gestion du pays, qu'elle est choyée par le régime, de tout point de vue, et que donc elle n'a aucune raison, pour l'instant, c'est le constat que l'on peut faire, de rompre avec le régime.
Même si on entend ça et là quelques défections
donc,
tous les
discours qui ont été faits par le président autoproclamé sont des discours en direction des forces armées. Il a fait en particulier le 25 janvier adopté par l'Assemblée nationale dont il est le président une loi d'amnistie en vue de essayer de séduire les militaires en leur disant bon c'est vrai. Ce que vous avez fait c'est pas bien jusqu'ici mais il n'y aura pas de poursuite, vous serez amnistié. C'est une proposition qui est restée sans suite. La semaine, non, il y a quelques jours, le président Donald Trump, en Floride, a lancé des menaces à l'égard de l'armée vénézuélienne, parce qu'effectivement, on assiste à une espèce comme dans le catch ou dans la lutte mexicaine, on assiste à une espèce d'insulte réciproque des deux côtés.
Des menaces et puis des imprécations à Miami. Ils ont dit il faut faire ce qu'il faut.
Des menaces relatives, ouais. Puisque les uns et les autres savent qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir au Venezuela, comme le dit en s'appuyant sur un article de la Constitution, le président autoproclamé, qui de toute façon n'avait pas s'autoproclamé dans la rue, dans une manifestation, qui est une procédure constitutionnelle extrêmement critiquable et douteuse. Hein. On ne peut pas lutter pour le respect des droits et de la Constitution en se proclamant président dans ces conditions-là. C'est une parenthèse.
Et qu'est-ce qui peut se passer encore une fois dans les prochaines heures? Est-ce que l'aide peut entrer, sachant que le président Maduro a fait bloquer ce fameux pont de Tianitas avec des remorques, que l'armée s'est dite prête à défendre l'intégrité territoriale? Cette aide va entrer ou non, selon vous?
Donc c'est une posture un coup de poker comme il y en a depuis le début de cette affaire, depuis son autoproclamation du président Guaido, du président des États-Unis, qui savent très bien que cette aide ne pourrait entrer au Venezuela qu'avec l'accord des autorités. Autorités qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils menacent et qui, donc, logiquement, a pris la décision de fermer la frontière. Le constat que l'on peut faire, c'est que malgré tout, les choses ont l'air de se terminer à la vénézuélienne avec une solution de sagesse qui est d'avoir une guerre musicale avec des concerts des deux côtés de la frontière. Donc, on se situe plutôt dans la politique d'influence, de revendication face aux médias, plus que dans une aventure militaire, que de toute façon la Colombie, puisque c'est le point chaud de la frontière, que la Colombie, en dépit du fait que son président soit très anti-Maduro, la Colombie a refusé toute aventure militaire.
Oui, c'est ça, puisqu'il y aura ces deux concerts donc dans quelques heures, l'un animé par, enfin payé par Richard Branson, Venezuela Aid, et puis l'autre Hands Off Venezuela, Ne touchez pas au Venezuela, celui qui est promu par le régime de Maduro. Eh bien, on suit ça et on verra les développements également diplomatiques dans les prochains jours. Merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Jean-Jacques Kourlianski. Je le rappelle, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin traitant si nécessaire. Ne vous rendez pas aux urgences sans avis médical et contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
France Culture présente Saison Sensible. Découvrez les trois nouvelles expositions du Palais de Tokyo. À travers ses installations vidéo, Angelica Messiti interroge sur la communication non-verbale, si Esther Gates poursuit son exploration des histoires sociales de la migration et Julien Creuset nous embarque au cœur de chansons pop millénaires. Saison Sensible, jusqu'au 12 mai, au Palais de Tokyo à Paris. Un partenariat France Culture.
Saison sensible, oreille sensible, écoutez France Culture à 6h57, car voici les matins.
Uniquement.
Et écoutez Guillaume Werner aussi,
Xavier,
bonjour Guillaume.
Martinet. Bonjour à tous.
Et écoutez, car voici comment les médias voient les paysans ruinés.
Oui, vous savez Xavier, c'est une histoire qui tourne de télé en télé, une sorte de conte de fées, l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui lance une cagnotte sur internet pour aider ses parents surendettés, agriculteurs dans le Lot et Garonne. Alors elle doit récolter 450 000 euros pour sauver la ferme familiale. Il y a quelque chose de très émouvant bien sûr dans l'amour de cette jeune fille pour ses parents, sa dévotion, et j'espère de tout cœur qu'elle va réussir à réunir cette somme, que la ferme donc de ses parents sera sauvée. Et alors ensuite on fait quoi? Je veux dire, quand cette ferme sera sauvée, puisque bien sûr il faut qu'elle le soit. Cette cagnotte destinée à sauver une petite exploitation agricole a suscité moins de polémiques, c'est un euphémisme, que d'autres cagnottes récemment médiatisées. Pourtant, quelle est la morale de cette histoire? C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est un petit agriculteur, il faut compter sur la charité publique pour s'en sortir. A priori, ces agriculteurs sont endettés pour mettre leur poulailler aux normes. L'exploitation a été placée en redressement judiciaire, mais les dettes demeurent trop lourdes. En d'autres termes, ces gens qui, j'imagine, se tuent à la tâche ne s'en sortent pas. Alors oui, il y a un problème. Je ne sais pas s'il est lié à la banque qui les a laissés s'endetter, à des activités trop onéreuses pour de petites exploitations, mais il y a quelque chose d'insupportable dans cette histoire de cagnotte. Un peu comme si l'on acceptait l'idée que lorsque l'on travaille jour et nuit dans une exploitation agricole, on doit, pour survivre, avoir recours à la générosité publique. Alors si l'on en est là, c'est quelque chose de dramatique, ce n'est pas un conte de fées, cette cagnotte, c'est un scandale, un aveu terrible. Les petits agriculteurs ne peuvent plus vivre, ils peuvent mendier, bien sûr mendier 2.0 sur Internet, mais mendier tout de même. Un peu comme si l'on expliquait aux salariés de ce pays que la seule manière de boucler leur fin de mois, c'était de gagner au loto. On m'a toujours dit que dans une ferme, il fallait savoir tout faire, je ne savais pas qu'en plus, il fallait savoir mendier.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner.
Sophie Kahl est notre invitée, la grande artiste, l'artiste et la mort, puisqu'elle s'intéresse particulièrement à la mort. Que faites-vous de vos morts? Dans votre agenda, vous écrivez « mort » à côté du nom, vous dessinez une croix, une tombe. Voici quelques-unes des questions que Sophie Kahl adresse à ceux qui viennent voir ses expositions. Hervé Guibert disait d'elle qu'elle était une faiseuse d'histoire, en tout cas sa vie, plus qu'une histoire, est devenue une œuvre d'art aux ramifications multiples, qu'il s'agisse de photos, de vidéos, d'installations, de performances. Sophie Kahl utilise allègrement Sophie Kahl pour faire du Sophie Kahl. Elle sera dans ce studio dans une quarantaine de minutes et en attendant, c'est Catherine Dutu qui est à mes côtés.